Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country.
En plein cœur de la crise, elle est montée au front. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a appelé les Britanniques à ne pas se décourager dans une période de bouleversement dans la vie du pays. C'était en avril dernier, dans une allocution télévisée rare hors période de Noël, la quatrième seulement en 68 ans de règne. Une période difficile pour les habitants, pour l'économie britannique déjà fragilisée par le Brexit et pour les finances du royaume. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se plonger aujourd'hui dans les comptes de la reine d'Angleterre. Nous sommes en juillet 2015. Pour la dernière fois, la reine Elisabeth II d'Angleterre monte à bord du Britannia, l'ex-yacht de la famille. Un palais flottant de 127 mètres de long que l'on peut visiter encore sur le port d'Édimbourg. Il avait été lancé en 1944, comme on peut l'entendre dans cette archive de la BBC.
At John Brown's yard on Clydeside, the 4,000-ton royal yacht is ready for launching by Her Majesty. It was at this same yard that the Queen, as Princess Elizabeth, launched the battleship Vanguard in 1944.
Cela faisait longtemps qu'elle n'avait arpenté les ponts du Britannia désarmé en 1997 pour des raisons d'économie, une décision du travailliste Tony Blair. Le bateau était affrété par la Royal Navy pour un coût estimé à environ 15 millions de dollars par an, avec son équipage pouvant monter jusqu'à 240 hommes, car la royauté a un prix en Angleterre. Combien ? On va essayer d'y voir plus clair dans la story, mais ne vous y trompez pas, si la famille royale a un coût, elle rapporte aussi beaucoup à l'économie britannique, même si en période de Covid, l'équation est un peu moins favorable. Ingrid Feuerstein, journaliste aux Échos, a mis le nez dans les comptes de la reine pour un article à retrouver dans les Échos Weekend. Bonjour Ingrid.
Bonjour Pierrick.
Une petite question pour commencer. Quelle est l'image d'Elisabeth II aujourd'hui en Angleterre ?
Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'image d'Elisabeth II, c'est que par rapport aux années 90 où elle était plus que dégradée, son image s'est quand même beaucoup améliorée. La famille royale a retenu les leçons des déboires de l'époque de Lady Diana. Et aujourd'hui, elle contrôle au maximum son image et toute la communication s'est beaucoup professionnalisée depuis cette époque-là. Finalement, aujourd'hui, la monarchie est peu contestée. On peut dire quand même qu'aussi c'est la montée de la jeune génération qui a contribué aussi à renouveler son image. Et quand on voit certains sondages, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, ils sont peu fréquents. Donc finalement, ça montre que ce n'est pas forcément une question que les Britanniques se posent beaucoup. Faut-il ou non abolir la monarchie, contrairement au Brexit qui divise beaucoup l'opinion. Et puis, ce qu'on voit dans ces sondages, c'est que la monarchie a deux tiers, voire trois quarts de soutien dans l'opinion britannique. Donc c'est énorme, c'est bien supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres pays qui ont encore une monarchie. Donc peut-être même que beaucoup de politiques aujourd'hui enviraient une telle popularité, même si bien sûr c'est pas comparable puisque voilà, elle n'est pas élue, cette monarchie, elle est maintenue de droit.
Oui, elle n'a pas à prendre les décisions qui fâchent, notamment toutes les décisions qui concernent les confinements par exemple ou les hausses d'impôts. Ce n'est pas elle qui prend ces décisions. C'est vrai que ça favorise, ça permet d'avoir aussi là une bonne opinion auprès du public. Malgré tout, ça a un coût d'entretenir la famille royale. On a une idée de combien ça coûte ?
Alors effectivement, ça coûte cher d'avoir une famille royale. Quand on voit le palais de Buckingham ou de Windsor, on se dit que ça ne coûte pas une paille de l'entretenir. Et puis effectivement, ils ont quand même un certain train de vie, ils tiennent beaucoup d'obligations, ils ont un rôle diplomatique, ils font beaucoup de voyages de déplacements à l'étranger. On n'a pas d'estimation globale du coût de la monarchie britannique. Certains se sont essayés à faire ce calcul, mais il n'y a pas de coût officiel. Alors d'ailleurs, c'est le reproche que leur font certains observateurs. Hein, plusieurs journalistes, des parlementaires ont enquêté sur le sujet, ont essayé eux-mêmes de faire leurs propres estimations, mais on reste toujours dans un ordre de grandeur. Ce qu'on connaît, il y a un chiffre qui est officiel, c'est le montant de la dotation publique, donc qui s'appelle Sovereign Grant, et qui est alloué chaque année à la reine. Et actuellement, ça représente 80 millions de livres. Donc cette somme, elle permet à la reine de financer tous ses déplacements, de financer aussi l'entretien des palais, et puis de financer une famille royale qui représente la monarchie britannique dans son pays à l'étranger. Mais attention, parce que ça ne couvre pas tous les coûts. Il y a une autre estimation qui a été faite, alors là, c'est par un groupe de pression qui s'appelle République et qui, lui, est favorable à l'abolition de la monarchie. Donc, c'est peut-être une estimation qui est un peu partisane, mais que du coup, on peut prendre comme une fourchette haute, qui, là, est à 320 millions de livres. Donc, on ne convertit pas ça en argent qu'on pourrait investir dans les hôpitaux, les écoles, etc. On ne voit pas tellement ce genre de raisonnement chez les Britanniques, mais c'est vrai que ça représente quand même une somme considérable. Et surtout, en fait, la grande inconnue qui peut expliquer en fait la différence entre les deux estimations, c'est le coût de la sécurité, qui lui reste confidentiel, pour des raisons de sécurité. Mais on sait que c'est pas rien, parce que quand Harry et Meghan ont annoncé leur départ et leur volonté de prendre leur indépendance financière, il y a eu beaucoup de débats sur ce que coûterait leur sécurité, et rien que pour Harry et Meghan. Hein. Et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu s'installer au Canada, parce que c'était très sensible vis-à-vis de l'opinion publique canadienne, et c'est finalement la Californie qui les a accueillis.
They have found their forever home in Santa Barbara. America is their new life. Yes, they will come back to the UK. Of course, they will want to see Harry's family over here.
Un déménagement qui fait le bonheur de la chaîne américaine Entertainment Tonight. Mais vous avez raison de le signaler, Ingrid, la famille royale, ce n'est pas qu'Elisabeth II et le prince Philippe.
Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de membres de la famille royale qui travaillent pour la monarchie, en fait. Donc, vous avez principalement la descendance de la reine Elisabeth II, donc jusqu'à Kate et William. Vous aviez jusqu'en janvier dernier Harry et Meghan, donc ils percevaient une partie de cette dotation royale. Ils étaient aussi aidés par le prince de Galles, par le prince Charles. Mais vous avez aussi des cousins d'Elisabeth II, vous avez ses frères et sœurs. Et leur rôle, c'est de promouvoir la marque Britain, la monarchie britannique, dans leur pays, par exemple en s'impliquant dans des organisations caritatives ou à l'étranger, beaucoup dans des pays du Commonwealth aussi, pour faire des visites de représentation. Ou alors, certains ont même endossé le rôle d'ambassadeur du commerce extérieur britannique. Donc, leur rôle était de promouvoir les produits britanniques à l'étranger. Et en échange de ça, ils perçoivent une partie de cette sovereign grant, donc de cette dotation royale.
Oui, il y a un terme que vous avez employé, ils travaillent. Je trouve que c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont des obligations en termes de représentation en contrepartie. Ils ne se contentent pas de rester assis sur le trône.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans la presse anglaise, on voit le terme de working royals. Alors moi, j'ai demandé dans l'enquête que j'ai fait pour les Echo Weekend, qu'est-ce que ça veut dire d'être un working royal. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de définition. Comme je vous ai un petit peu décrit entre guillemets la fiche de poste, mais c'est pas défini. Chaque année, donc, il y a un rapport annuel sur cette sovereign grant, sur cette dotation royale, dans lequel on peut, en fait, la famille royale britannique rend compte de tous ces événements, toutes ces rencontres, toutes ces obligations qu'ils ont tenues. Donc, il y a quand même une certaine transparence vis-à-vis de l'opinion. Mais je ne sais pas s'il y a un système d'échange dans lequel ils s'engagent à faire X ou Y déplacements à l'étranger en échange d'eux. En revanche, vis-à-vis de l'opinion, ils sont quelque part obligés quand même de rendre des comptes pour vérifier qu'ils travaillent bien. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même une famille royale qui est assez active par rapport à d'autres familles royales en Europe. Alors déjà parce qu'ils sont nombreux. On parle d'une quinzaine, ils étaient une quinzaine de personnes, donc avant le départ de Harry et Meghan et celui de Andrew, qui lui a été impliqué, qui vis-à-vis de certaines affaires aux États-Unis a dû quitter aussi ses fonctions. Donc maintenant, ils sont une grosse dizaine. Et c'était une étude qui avait compté l'ensemble de leur engagement En 2018, c'était University College London qui avait publié cette étude. C'était 3800 au total et c'était presque le nombre le plus important. Enfin, on voyait que c'était un chiffre quand même beaucoup plus important par rapport à l'activité d'autres familles royales en Europe.
C'est 7 jours sur 7, un dimanche compris. Et c'est vrai que leurs dépenses sont épluchées par la presse ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours un rapport publié chaque année dans lequel ils rendent compte de leur activité. On a certaines dépenses, c'est-à-dire qu'on peut savoir quelle somme est allouée au personnel de Buckingham Palace, quelle somme est allouée à la rénovation du palais. Et puis surtout, dans ce rapport, vous avez une annexe à la fin, donc c'est toujours dans cette annexe que se jettent les journalistes en premier, parce que là, vous avez le détail des déplacements. Donc, généralement, les tabloïds font leur chou gras de tous les petits détails un peu, un petit peu croustillants, comme si, je sais pas, la princesse Anne a pris un jet privé pour aller voir un match de rugby, ou Harry et Meghan avaient fait un déplacement en Afrique du Sud qui avait coûté plus de 200 000 livres. Voilà, tous ces petits détails sont listés dans cette annexe et généralement, c'est ça que préfèrent les tabloïds.
Meghan and Harry breaking free financially from the royal family following that mega multi-million dollar agreement with Netflix. James Longman is outside Buckingham Palace with the latest on all of that. So James, does this mean Megxit is a done deal?
La liste des bénéficiaires de la subvention a diminué avec le départ de Harry et de son épouse. Cette volonté d'indépendance financière a fait la une de la presse britannique et même d'ABC aux États-Unis dans son émission phare Good Morning America avec un envoyé spécial devant Buckingham Palace. Mais Ingrid, pourquoi un tel battage ?
C'est aussi une famille royale qui rayonne plus que d'autres en dehors de leur pays. Et ce qui avait beaucoup choqué l'opinion, c'est que c'est la première fois qu'un couple royal veut prendre son indépendance comme ça et dire « on va gagner notre vie par nos propres moyens ». Finalement, le seul qui avait eu ce cran-là, c'était Édouard VIII, qui, donc, c'était le frère de George VI, le père d'Élisabeth II, qui, en 1938, s'était marié avec une Américaine divorcée. Et comme ça, c'était pas acceptable vis-à-vis de la monarchie britannique, il avait abdiqué. Mais cette prise d'indépendance, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à ce titre-là. Et ils auront probablement pas la tâche facile.
Même si le contrat jute signé avec Netflix pour produire des films, des séries et des documentaires devrait leur permettre de voir venir. Mais cette indépendance, Ingrid, elle a un prix. Élisabeth II n'a pas vraiment apprécié ses velléités d'indépendance ?
Alors, elle a été intransigeante avec eux, c'est-à-dire qu'il s'est posé beaucoup de questions financières, notamment quand eux ont annoncé leur départ. Ils auraient quand même souhaité continuer à représenter la monarchie britannique. Voilà, ils ne s'imaginaient pas qu'en disant « on veut partir aux États-Unis et vivre notre vie », le divorce serait total. Et en fait, effectivement, la reine a décidé qu'il n'aurait plus de dotation royale, qu'il ne pourrait plus vivre dans la résidence de Frogmore Cottage qui leur avait été attribuée et d'ailleurs rénovée à grands frais sur les deniers du contribuable, et puis qu'il ne pourrait plus représenter la monarchie britannique. En fait, vous êtes working royal ou vous ne l'êtes pas, hein. C'est pas un travail à mi-temps. Donc ça a été assez brutal et oui, assez net.
Alors la reine tire ses revenus de ce sovereign grant dont vous avez parlé, mais elle a d'autres types de revenus également qui viennent gonfler son portefeuille ?
Oui, alors tout à fait, la reine en fait est propriétaire de ce qu'on appelle le duché de Lancaster. Ça c'est assez intéressant aussi parce que c'est un duché qui appartient au souverain britannique depuis 1399. Donc vous vous rendez compte à quel point cette tradition est ancienne. Donc le souverain a le duché de Lancaster et l'héritier du trône a le duché de Cornouailles. Ils en tirent des revenus qui leur permettent aussi d'entretenir leur famille. Donc ça signifie qu'au décès de la reine, c'est le prince Charles qui aura le duché de Lancaster et le prince William qui, lui, aura le duché de Cornouailles. Donc, à l'époque où cette tradition a été instaurée, évidemment, c'était des terres agricoles et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Maintenant, la reine, elle est propriétaire. Vous avez encore des terres agricoles, mais vous avez aussi des zones commerciales, des rues commerçantes, des stades de sport, des stades de cricket. Enfin, c'est vraiment toute une variété d'actifs, de choses qui ont été construites depuis, entretenues et puis développées par les souverains respectifs, mais fortement professionnalisées depuis les années 80, puisque maintenant, elle a même un portefeuille de titres financiers, la reine. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'elle avait été impliquée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans dans l'affaire des Paradise Papers. Donc, bon, ce n'était pas une somme très importante. Elle s'en est tirée. Je pense que ça a quand même beaucoup surpris l'opinion britannique, qui pensait plutôt que la reine détenait des actions dans des grandes entreprises britanniques comme Marks & Spencer. Mais elle a effectivement aussi un portefeuille d'actifs qui est géré par une société de gestion d'actifs.
Mais qui gère justement ses intérêts?
Elle a une sorte de directeur financier, la reine, qui s'appelle le Keeper of the Private Purse, donc le gardien de la bourse privée, si on traduit de manière un peu littérale. Ça a été la même personne pendant 15 ans, Alan Reid, donc qui était un ancien associé du cabinet KPMG. Et depuis 2018, c'est une personne qui s'appelle Michael Stevens. Ce sont des personnes qui s'expriment assez peu vis-à-vis de l'opinion publique. Ils ont donné parfois des interviews, mais plutôt à des chercheurs dans le cadre de livres, de recherches. Ils doivent donner de temps en temps ce qu'on appelle des briefing off, donc des petites conférences de presse, mais uniquement à quelques correspondants des journaux britanniques qui suivent la famille royale. Mais ce sont des personnes qui restent quand même assez discrètes.
Et vous connaissez l'expression « My tailor is rich ». Qu'en est-il de la reine? Est-ce qu'on peut dire la même chose? On dit souvent que c'est la femme la plus riche du monde, mais elle n'apparaît pas dans le classement Forbes des milliardaires.
On sait que la reine est riche, mais on a beaucoup de mal à évaluer son patrimoine. Il y a un classement qui est fait référence, qui est celui du Sunday Times, donc qui chaque année classe les grandes fortunes britanniques. Et dans ce classement, la reine arrive en 372e position. Donc, c'est pas non plus, elle se classe pas dans les grandes fortunes de son pays. Son patrimoine est estimé à 350 millions de livres dans ce classement. Donc, vous voyez, elle est très loin des grandes fortunes qui ont été construites dans le monde des affaires, comme celle de la famille Dyson ou de Richard Branson. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très difficile d'évaluer son patrimoine. Ne serait-ce parce qu'elle a des actifs qui sont invendables, qui ne peuvent pas être évalués. Je ne sais pas si vous faites venir un agent immobilier dans Buckingham Palace, je ne sais pas comment il fait pour évaluer ce bien. Et puis, c'est difficile de distinguer ce qui est du patrimoine public ou privé. Par exemple, la reine est propriétaire des joyaux de la couronne, donc vous savez qu'ils peuvent être vus au musée de la Tour de Londres. Mais est-ce qu'on doit vraiment les compter dans son patrimoine? Ça n'a pas de valeur, elle ne peut pas les vendre. Donc, c'est quand même très difficile d'évaluer son patrimoine pour toutes ces raisons, et notamment parce que la frontière entre le public ou le privé, pour un souverain comme elle, est quand même difficile à tracer.
Mais c'est difficile d'obtenir des informations sur sa fortune, justement.
Alors, si on veut vraiment enquêter dans le détail, avoir des informations précises, c'est extrêmement difficile. Certains journalistes s'y sont essayés. D'ailleurs, il y en a un que j'ai interviewé longuement pour mon enquête. Il s'appelle David McClure et qui vient de publier un livre sur le sujet. Son livre est issu de 3 ans d'enquête. Et il a mis la main sur des documents inédits, mais c'est extrêmement difficile. Après, vous avez quand même un effort de transparence qui est fait, notamment parce que, comme je l'expliquais, vous avez un rapport publié chaque année sur les dépenses de la famille royale. Et puis, les deux duchés dont j'ai parlé publient aussi des informations financières. Donc, il y a un effort de transparence qui est fait, mais ça reste quand même une communication qui vient de la famille royale, qui donne certains détails. Mais pour rentrer dans le détail et faire la lumière sur toutes leurs finances, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, bien sûr, comme c'est un sujet très sensible, Buckingham verrouille toute communication là-dessus.
Alors, en faisant des recherches sur le sujet, de mon côté, je suis tombé sur un certain nombre d'articles de la presse People, Closer, Voici, Gala, qui posaient cette question. Est-ce que la reine est avare, pingre, comme on dit?
C'est effectivement l'image qu'en renvoie la presse People, oui. C'est pas quelqu'un qui étale sa fortune. L'exemple qui est donné, c'est que par exemple, voilà, on n'a jamais tellement vu la reine dans une robe de grand couturier. Elle a sa propre couturière. Et d'ailleurs, il semblerait que les frasques de Meghan par rapport à ça n'étaient pas forcément très, très bien vues par la reine. Donc, elle entretient aussi cette image. Par exemple, on l'a vu plusieurs fois prendre le train à l'heure de pointe pour aller dans sa résidence de Sandringham à Noël. Alors qu'elle a un train royal, hein, elle a son train privé, la reine. Elle aurait pu prendre son train privé. Elle prend le train avec tout le monde à l'heure de pointe. Bon, ça doit évidemment coûter très, très cher en sécurité, mais elle aime donner cette image. Voilà. Après, c'est historique aussi. Ça tient probablement à sa personnalité. Aussi à l'image qu'elle veut donner, parce que la famille royale ne veut pas faire bling-bling. Elle se sait quand même assez scrutée sur ce plan-là. Elle sait que d'autres monarchies ont disparu quand même avant pour ces raisons. Mais dans la monarchie britannique, il y a eu toujours historiquement un fort contrôle parlementaire qui date bien, même avant que notre monarchie à nous tombe, la monarchie britannique était plus contrôlée sur ses dépenses. Donc voilà, ça tient peut-être aussi à l'histoire.
Pas question donc de faire dans le bling-bling. Elisabeth II est plus business queen que dancing queen. Les affaires, justement, on peut imaginer que la pandémie de Covid n'a pas été une bonne nouvelle pour ses finances, Ingrid ?
Non. Alors effectivement, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup dans mon article. Ça va être une catastrophe parce que tous les actifs dont je vous parle, à la fois le duché de Lancaster, le duché de Cornouailles, et puis un autre ensemble dont on n'a pas encore parlé, mais en fait, la Sovereign Grant, elle est calculée sur la base d'un portefeuille d'actifs qui, lui aussi, comporte. En fait, vous avez dedans des rues commerçantes, les grandes rues commerçantes de Londres, Regent Street. Vous avez des immeubles de bureaux, vous avez des pans entiers de la City qui appartiennent donc à ce qu'on appelle les actifs de la couronne. Et puis, les revenus de la reine dépendent aussi du tourisme, des visites dans le palais de Windsor, de Buckingham. Depuis 10 ans, en fait, les visites avaient beaucoup progressé dans ces palais. On était, je crois, Windsor, on était arrivé à 1,7 million de visites. Et là, avec la quarantaine anglaise, le tourisme anglais a été réduit à néant. C'est-à-dire, il n'y a plus de tourisme dans le pays. C'est la première chose. Les rues commerçantes, avec le Covid, c'est pas la peine de vous dire que c'est compliqué en ce moment. Et les immeubles de bureaux, n'en parlons pas. Les Anglais sont très peu revenus à leurs bureaux. Vraiment, une minorité d'entre eux sont revenus à leurs bureaux entre les deux vagues de la pandémie. Donc, il y a un chiffre qui était donné justement sur les immeubles de bureaux qui appartiennent à la couronne britannique. En septembre, vous aviez 10 à 15% des employés qui étaient revenus au bureau. Donc, après la pandémie, voilà, on sait très bien que le travail ne reprendra pas non plus dans sa forme d'avant le Covid. Et ça va avoir beaucoup d'impact sur les revenus de la reine, oui.
Est-ce que les contribuables britanniques vont devoir remettre au pot ?
Alors ça, ce sera une question pour 2021. Mais effectivement, ça va être une question intéressante. Comme je vous expliquais, le Sovereign Grant, c'est une fraction de revenus générés par des actifs de la couronne. Donc, ça s'appelle Crown Estate et comme leur nom ne l'indique pas, ça n'appartient pas à la reine, ça appartient à l'État. Mais c'est sur la base de la santé de ses activités qu'est calculée la dotation de la reine. C'est 15 à 25% de ses revenus. Ce qui se passe, c'est que c'est désormais acquis que ce portefeuille d'actifs va voir ses revenus dégringoler. Qu'est-ce qui se passe ensuite derrière pour le calcul de cette dotation royale ? Sachant que ce qui est inscrit dans la loi, c'est que la dotation royale ne peut pas diminuer. Or, donc vous avez une partie des revenus de la couronne qui vont à la reine et l'autre partie qui vont au trésor britannique. Donc si mécaniquement les revenus de la couronne chutent, mais que la dotation royale ne peut pas chuter, c'est-à-dire que la fraction qui va revenir au trésor britannique sera beaucoup moins importante. Et ça, est-ce que les contribuables britanniques vont l'accepter ? C'est quand même une grande question.
Voilà, 80 millions de livres au minimum, c'est ce que coûte l'entretien de la famille royale britannique. Mais Ingrid, la couronne, c'est aussi un bon investissement. Les Windsor font vendre ?
Oui, alors il semblerait que la reine fasse vendre. J'avais même trouvé une étude université britannique qui avait sondé des consommateurs chinois et qui montrait que les produits s'exportaient mieux quand ils bénéficiaient de la garantie royale. Vous savez, la reine peut choisir certains produits qui bénéficient de cette garantie. Donc, ça peut être du thé, des sacs à main. Et il semblerait que quand on voit endossé par la reine, ça se vende mieux. Après, en termes de tourisme aussi, c'est un apport important. C'est difficile de dissocier l'effet famille royale sur les recettes du tourisme britannique, mais on voit quand même que quand il y a de grands mariages princiers, là, le tourisme rebondit. Quand on voit aussi quand même que, je citais le chiffre de 1,7 million de visiteurs par an à Windsor, et ça a beaucoup progressé ces dernières années. Donc, c'est difficile d'isoler l'effet famille royale du tourisme britannique, mais ça joue probablement. Et puis aussi, la famille royale britannique, elle fait vendre des produits culturels parce que The Crown, c'est quand même un succès grandissant. Il semblerait que chaque saison coûte 100 millions de livres à produire. Donc, c'est quand même un apport assez important. Et puis, ce qui est à prendre en compte aussi, c'est qu'elle joue aussi beaucoup dans le soft power britannique. Elle a un rôle diplomatique, elle a un rôle de représentation. Et ça pourrait aussi tout de même bénéficier à l'économie britannique.
Et selon le calcul de Brand Finance, si la reine et son entourage coûteraient autour de 292 millions de livres, soit 4,40 livres par habitant et par an, les Windsor rapporteraient plus de 1,7 milliard de livres au pays.
Oh, save our precious queen.
La reine a 94 ans. À son décès, ce sera une nouvelle page qui s'ouvrira pour la Royal Family.
Alors oui, bien sûr, ça va quand même changer beaucoup de choses. Donc, selon toute logique, c'est Charles qui prend sa succession, sauf s'il abdique parce que son fils est quand même très populaire. Mais bon, ça reste quand même très peu probable. Et ça, effectivement, ça devrait quand même changer un certain nombre de choses dans la façon dont fonctionne la firme Windsor, si on veut l'appeler comme ça. Il semblerait que ce soit quand même Charles qui ait beaucoup poussé sa mère à professionnaliser la gestion de son portefeuille, de son patrimoine. Donc ça, il est fort probable que ça continue et que ça s'accentue encore une fois que c'est lui qui sera roi. Et puis, il semblerait qu'il souhaite, lui, travailler avec une famille royale plus resserrée, donc plutôt autour de sa descendance. Donc, il semblerait qu'il y aurait moins de working royals, donc plutôt que la dizaine de personnes, 10-15 personnes qu'on compte aujourd'hui, que ça se resserrerait autour de sa descendance directe, donc avec William et Kate et leurs enfants.
Merci Ingrid Feuerstein, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver son enquête dans les pages des Échos Weekend pour profiter notamment des très belles infographies pour découvrir plus en profondeur le business des Windsor. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.